about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Menardi. Prise de son assurée ce soir par André Guélil. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Lucille Como, Philippe Chevillet, Jean-Christophe Brianchon, pour parler ensemble de « S'il se passe quelque chose » de Vincent de Dienne, le spectacle étant tourné et qui sort également en DVD, Blu-ray, TF1 Vidéo. Tout en douceur, c'est Jérôme Commandeur au Théâtre de la Gaîté Montparnasse et puis l'Underground Comedy Club. C'est une scène ouverte organisée tous les samedis soirs au théâtre de 10h. Coppelia Menardi surveille les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires ou vos questions sur notre programme. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour un autre one-man show, Adieu Ferdinand de Philippe Cobert. Ce sera des places à gagner pour vendredi 20h30 au Liberté, scène nationale de Toulon. Nous avons ce soir décidé de nous intéresser au spectacle d'humour, ce qu'on veut faire depuis bien longtemps, mais qui nécessite quelques organisations, et qui nous rend aussi évidemment particulièrement tributaires des programmations. La liste est longue de celles et ceux dont nous aurions voulu parler ce soir, en particulier de femmes, Blanche Gardin, Camille Chamou, Agnès Hurstel, quelques autres. Et si les hommes sont ce soir majoritaires dans notre programme, c'est juste pour une question d'agenda. On essaiera de remédier à cela lors d'une prochaine dispute. Pour l'heure, nous ouvrons avec Vincent de Dienne, actuellement en tournée, qui fait que ça le comble un peu partout en France. La sortie en DVD de son spectacle peut permettre une séance de rattrapage ou revoir le spectacle qui a reçu le Molière de l'humour 2017, notamment coécrit et commis en scène par le génial François Rollin, gage de qualité.
Bonsoir, je m'appelle Vincent de Dienne, je suis français. Et comme ça fait déjà beaucoup d'informations, je vous propose de faire une petite pause. Quelques chiffres à présent. Âge 29, pointure 43, digicode B1966, numéro de sécurité sociale 1-87-02-71-270-34-21, chiffre porte-bonheur 2, tour de cuisse 57, numéro de téléphone 06-10-71-66-64, et pour finir, le chiffre 12. Est-ce que certaines personnes se sentent déjà submergées par l'émotion ? Oui, c'est normal. Le début est très fort, mais vous verrez après, ça se tasse. Donc, en quelques mots, je suis Vincent de Dienne. D'un point de vue médical, je suis parfaitement en règle avec la médecine du travail, allergique à aucun médicament connu, cloison nasale refaite à neuf, port d'un lourd appareillage dentaire pendant 4 ans. Je ne pratique ni le sexe en groupe, ni le covoiturage. Mes passions dans la vie sont la vie, la paix dans le monde et marcher en forêt. Signe particulier, aucun, sinon deux cicatrices parfaitement parallèles au bas du ventre, une chute d'une falaise en Italie. Classe! Un empalement sur un barbelé en Seine-Saint-Denis. Moins classe. J'ai fait du grec et du judo. J'ai eu une petite amie suisse. Je n'ai jamais fait de comédie musicale ni de prison. Je suis célibataire, plutôt homosexuel, ce qui ne m'empêche pas d'être viril et de gifler de jeunes femmes. Mon aliment de base est la brioche. Toutefois, je suis omnivore. Mon péché mignon, le gluten. C'est bon, je trouve. Mais c'est de moins en moins facile à trouver. S'il y a des malvoyants dans la salle, qu'ils sachent que physiquement, je suis plutôt moyen, corpulence moyenne, pas spectaculairement musclé, ni joli, ni pas joli. S'il y a des beaux garçons dans la salle, je rappelle que je suis célibataire, plutôt homosexuel. Ce qui ne m'empêche pas d'être viril, de gifler des jeunes femmes et d'être joignable au 06 10 71 66 64. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bon, je crois qu'on a déjà passé une belle soirée.
C'est évidemment le début du spectacle, ou presque, parce qu'il y a quand même un prologue, on va dire, filmé, vidéo, avec une entrée en scène nue de Vincent de Dienne. Il faut dire que l'autre jour au bureau, Lucille Como, vous avez regardé ce spectacle avec votre petit casque pour ne pas gêner le bureau, mais on vous entendait rire, retenir des rires. Vincent de Dienne,
Oui, alors pas tellement rire à ce début que je trouve pas, paradoxalement, pas extrêmement engageant, ce qui est quand même dommage dans un spectacle. Je trouve qu'il faut que le début soit fort, donc il faut peut-être parler de ce prologue qu'on n'a pas entendu et qui de fait est très visuel. On voit en effet Vincent De Dienne en extérieur dans un film en noir et blanc, flâner un peu dans des rues qu'on reconnaît, de rues parisiennes, s'arrêter devant une librairie et puis après entrer dans le théâtre avec en fond à la fois la fameuse chanson chantée par Jeanne Moreau, bon là c'est en l'occurrence sans les paroles, et la voix ensuite de Marguerite Duras qui répond à une interview et qui répond, enfin qui renvoie aux journalistes la question qui êtes-vous, qui êtes-vous Marguerite Duras, en disant bon mais qu'est-ce que ça veut dire cette question. Donc clairement l'égide du spectacle de Vincent De Dienne est extrêmement intello, on va dire ça, parce que c'est un des aspects du spectacle, et également très assumé sur la réflexion autour de ce que c'est qu'un one-man show en termes d'entreprise autobiographique. Donc, il y a un côté un petit peu scolaire, je vais commencer par les mauvais points, au spectacle qui est lié à ce début et qui est filé ensuite tout le temps, puisque le spectacle ne cesse d'interroger ses propres codes, d'interroger ce que c'est qu'être en représentation, et surtout être en représentation de soi, dire « je » sur une scène, etc. C'est assez intelligent, faut le dire. En même temps, il y a un peu un côté du coup one man show pour France Culture. Donc là, on tombe complètement dans le panneau parce qu'on en parle ce soir.
Et bah, c'est vrai que c'était TF1 vidéo et c'est passé la semaine dernière et c'est en replay sur le site de TF1.
Certes, mais on a quand même l'impression que c'est adressé à des gens comme nous. Il y a des références, bon, il y a évidemment la référence à Duras au début, il y a des références à son propre parcours, qui est un parcours de bourgeois, qui a fait des écoles de théâtre. On sait que par ailleurs, il joue dans du théâtre classique, et ça se sent à la fois dans sa diction, dans ses postures, dans la manière dont il aménage la scène, puisque sur scène, il n'y a pas rien, hein, qu'on parlera de Jérôme Commandeur après, où pour le coup, il y a quasiment rien au début, du moins. Il y a un portant avec des costumes, donc la référence théâtrale est extrêmement assumée. Et j'avoue avoir été un petit peu lassée par les constantes références à ça, à ce que c'est la représentation, etc. Je vais juste donner un exemple. Et en fait, je passe même à ce que j'aime bien dans le spectacle. À un moment donné, il fait un sketch, un premier sketch. Et il n'arrête pas d'annoncer, c'est une forme de coquetterie, à dire « Attention, là, je vais faire un sketch, ce qu'on appelle un sketch, avec des milliers de guillemets, dans la voix et dans le ton. » C'est un petit peu énervant, le côté coquet, de prendre avec un petit peu de pincette les codes du genre, les codes populaires du genre. Ça m'a un petit peu agacée. Et en même temps, il y a quelque chose de très drôle quand il commence le sketch. Donc, il interprète un vendeur de jeux de société qu'il aurait pu être, parce qu'il adorait quand il était petit jouer aux jeux de société. Et donc, il interprète un vendeur de jeux de société dans une petite ville de province. C'est extrêmement drôle. Et ce qui est drôle pour le coup, c'est qu'il n'arrête pas de faire référence au lieu même du magasin de jouets comme un lieu théâtral. Et il dit par exemple à un moment donné à un employé imaginaire « Poussez-vous là, vous êtes dans mon sketch. » Et ça revient à plusieurs reprises dans les moments un peu classiques de One Man Show, et c'est très drôle. Mais pour autant, est-ce que c'était nécessaire de tout le temps insister sur le fait qu'on a bien compris, qu'il s'interroge sur ce que c'est que le One Man Show, que c'est articulé à la question biographique? C'est peut-être un peu lourd au final.
Alors vous le dites, Lucille Comeau, c'est vrai qu'on a parlé de Vincent De Dienne il n'y a pas si longtemps que cela dans la dispute pour sa présence, et c'est d'ailleurs encore le cas actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin où il joue le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène de Catherine Yégen. Vous aviez vu ce spectacle, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon?
Non.
Pas celui-là. Donc Philippe, voilà, tout notre représentant sur le Vincent De Dienne, et parce qu'on est quand même aussi tenté de comparer cette présence scénique dans une troupe, dans un classique, et puisque vous avez pu voir là de son spectacle, Philippe.
Ah oui, moi je l'ai vu donc dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai vu d'abord le Marivaux et ensuite j'ai vu le spectacle de Vincent De Dienne donc en DVD. Et donc j'avais été moi favorablement surpris par sa façon de s'accaparer le personnage d'Arlequin très vite et de devenir vraiment ce qui pour beaucoup de gens est le comique qui arrive sur scène et qui va faire son numéro. Non, il entre vraiment dans son rôle. Donc ce côté comédien m'a frappé aussi dans le DVD. Là, alors je rejoins Lucille, mais plutôt en positif, c'est-à-dire que si on détourne le regard et qu'on l'entend parler, ça va souvent être drôle, mais c'est mais ça perd beaucoup de sa puissance parce que il y a beaucoup de l'effet de la drôlerie et de l'émotion du spectacle dans ses regards, dans ses gestes, dans ses sourires. C'est vrai que au-delà de cette coquetterie ou disons de ce fil rouge qui est celui de est-ce que c'est un one man show ou pas vraiment un one man show, moi qui suis jeune comédien et qui me suis lancé donc mais il s'était déjà lancé à 14 ans puisque c'est quand même en regardant Muriel Robin qu'il est devenu fan de théâtre finalement, donc il est un peu entre il s'estime être un peu entre deux chaises et donc il en fait un spectacle qui est en même temps et ça c'est assez fort parce que c'est en même temps drôle et en même temps c'est parfois très très émouvant, même grave, puisque presque au début du spectacle, on a le récit de cette enfance
née de parents inconnus.
Et c'est vrai qu'il y a un passage émouvant très vite qui peut casser les rires. Je pense d'ailleurs que pas mal de gens qui regardent ce qu'il fait à l'émission d'Yann Barthès peuvent se dire il y a moins de punchline finalement que dans cette émission, c'est moins drôle. Après tout, d'ailleurs, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est après ce spectacle. Ce spectacle, il a été écrit, hein, je crois que c'est 2011, le démarrage. Je suis peut-être un peu confus parce que je pars un peu dans tous les sens, mais le spectacle part un peu dans tous les sens, en tout cas au niveau des émotions. Et c'est vrai que par moments, on se dit, il y a peut-être un faux rythme, il y a peut-être des coquetteries, mais on est rattrapé par cet humour et ce charme fou. C'est-à-dire qu'il a un charme fou. Et c'est craquant de l'entendre faire des calembours parfois un peu faciles, parfois d'avoir certes beaucoup d'humour, mais parfois d'être un tout petit peu moins drôle. Mais c'est l'ensemble du spectacle, finalement, on est gagné à l'arracher, en plus par cette... toujours cette ambiguïté qui est de dire moi je suis pudique. C'est vrai que c'est assez pudique, sauf qu'il arrive nu et qu'il repart nu. C'est toujours entre deux et c'est un genre d'autofiction comique qui est finalement pas banal, tout en respectant les codes quand même du comique, du stand-up. Et c'est vrai qu'un spectacle d'une heure quarante, hein, c'est bien qu'il y ait des sketchs de temps en temps, celui de Pôle emploi quand même il nous fait rire. Et l'autre aussi des jeux. Donc moi, j'ai été fablement surpris. La seule surprise que j'ai eue, c'est de me dire finalement, je pensais que j'allais rire beaucoup plus. Je suis plus dans le sourire, mais finalement, c'est un spectacle qui reste rivé à moi. Et je me dis, mais après, à l'avoir vu dans Harlequin, ça va être formidable ce qu'il va nous faire au théâtre. Voilà.
Jean-Christophe Briançon sur Vincent de Dienne et sur S'il se passe quelque chose, le titre de ce spectacle. Concerne,
je rejoins Lucille Comeau sur pas mal de points, bien que j'ai adouci mon jugement depuis la première fois où je l'avais vu, puisque je l'ai vu pour une première fois à Avignon il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, et j'en étais alors sorti très agacé, justement pour les raisons que Lucille évoque, entre autres pour l'ultra-référencement permanent, puisque bon, alors il y a entre autres effectivement ce départ sur Marguerite Duras, la BO d'India Song, mais après ça tient pendant tout le spectacle. La moindre musique utilisée est une musique qui est censée parler à un public particulier. C'est en l'occurrence c'est Sébastien Tellier, Roche de Sébastien Tellier. Puis ensuite on entend des mots de Françoise Sagan, puis Vivre pour vivre de Lelouch, etc. Enfin bon, c'est quand même assez lourd et très présent dans le spectacle. Ça m'avait alors beaucoup agacé et de la même manière m'avait agacé sa propension à essayer de nous expliquer qu'il réfléchit sur la théâtralité en faisant un spectacle métathéâtral. Et finalement, là, en le revoyant, j'ai un jugement beaucoup moins dur et j'ai trouvé ça beaucoup plus intelligent, peut-être parce qu'entre-temps, j'ai vu aussi beaucoup de one-man show et j'ai pu me rendre compte à quel point le travail était pas aussi intéressant qu'il ne peut l'être là, en l'occurrence. Et c'est justement dû à cette formation dont parle Lucille d'homme de théâtre, de comédien. Puisque comme elle le disait, il a étudié à la Comédie de Saint-Étienne et ça se sent à plusieurs égards, notamment sur le plan scénographique, puisque que ce soit sur le plan des lumières qui sont faites par Anne Coudray ou de la scénographie elle-même qui est faite par Lucie Joliot, il y a quand même un réel travail d'investissement de la scène comme étant un espace de théâtralité justement. Et pas seulement de discours sur la théâtralité. Là vraiment on fait du théâtre, pas seulement du one man show. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, enfin formellement ça casse pas des briques non plus, mais c'est quand même un geste de one man show qui nous propose quelque chose au-delà de simplement quelqu'un qui nous raconterait de manière un petit peu rigolote ce que chacun aurait pu voir ou non des ridicules ou de l'absurde du monde. Là non, il y a quand même une réelle théâtralité, quelque chose d'autre, et une théâtralité qui se sent aussi par le choix de son écriture, alors qui n'est pas seulement la sienne, comme vous l'avez dit, et que je trouve très intéressant parce qu'il s'écarte quand même pas mal de ses personnages, pour réellement parler de lui. Et bon, alors en soi, parler de soi dans un one man show, c'est rien de révolutionnaire, mais lui le fait de manière tellement assumée et à la rigueur sans incarnation que ça finit par prendre réellement un sens notamment quand, comme le Philippe le disait, quand il atteint un certain degré de sensibilité. Malheureusement, ça arrive un petit peu tard, j'ai trouvé, peut-être voilà, sur les 15 dernières minutes du spectacle, de manière un peu abrupte même, un peu tard et un peu abruptement. Mais pour autant, ça permet d'éloigner le one-man show de ce qu'il peut avoir de futile, comme on pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, quand les comédiens ne font que de nous dire « Ah, je sais pas si vous avez vu, mais moi, dans le métro, les gens regardent... » Bon, là, on n'est pas là-dedans, on va au-delà de ça. Et quitte à parfois rentrer dans un sensible qui toucherait à la sensiblerie, mais c'est pas grave, c'est quand même très intéressant.
Alors, pour ce qui me concerne, c'est vrai que moi, j'avais jamais vu Vincent de Dienne ni sur scène, ni à la télévision, ni entendu en radio. Enfin, je connaissais que le nom. Donc, j'étais tout à fait vierge devant ce spectacle. D'abord, je trouvais que quand même commencer par Marguerite Duras, ça m'a beaucoup surpris. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça très beau parce que c'est pas du tout pour se moquer de Marguerite Duras, qui est quand même une tarte à la crème, pas seulement chez les humoristes. Quoi, Lucille, comment vous levez les yeux au ciel?
La génération de Vincent de Dienne, dans le milieu dans lequel il évolue, c'est plutôt une tarte à la crème que de commencer par Marguerite Duras.
Ah, d'accord. Vous avez d'autres noms ou...
Non, mais bon, moi, ça m'a pas du tout surprise, par exemple. Je trouve que c'est plutôt une tarte à la crème.
D'accord. Vous auriez
préféré. Oui, en l'occurrence,
je vois pas.
C'est un truc,
mais... Catherine Pancol, ça aurait été une autre. Ouais, plus
et puis
plus cette étonnant.
Archive-là de Marguerite Duras qui me dit qu'elle ne sait pas comment faire un autoportrait. Et elle interpelle un journaliste en lui disant vous savez qui vous êtes, vous, bah dites-moi.
Je trouve
ça assez intéressant, c'est assez beau.
Si vous me permettez, Lucille, moi ça m'a plutôt étonné et touché, je dois dire. Après, ce qui est manifeste, c'est la très très grande aisance que Vincent de Dienne a sur scène. Alors il est vrai que le DVD est enregistré à un moment où le spectacle existe depuis 3 ou 4 ans, donc il a dû le jouer quelques centaines de fois, j'exagère peut-être un peu, mais enfin sans doute beaucoup, 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 beaucoup. Donc il le possède vraiment sur le bout des ongles, ce spectacle-là, ce qui donne une très grande fluidité. Pour le dire tout à fait, il faut dire que c'est coécrit par lui-même, Vincent de Dienne, Juliette Chéniaud, Mélanie Lemoine et François Rollin. C'est mis en scène par Juliette Chéniaud et François Rollin. Je crois qu'il faut quand même citer tous ces gens-là qui ne sont pas pour rien dans cette réussite, parce que je trouve qu'il y a des qualités de comédien qui sont évidentes. L'écriture est tout à fait, moi je trouve, brillante. Après, voilà, il y a peut-être des moments qui... Alors, pas forcément d'ailleurs les moments dits d'émotion qui font un peu des baisses de régime, mais je trouve que c'est quand même assez tenu, vraiment d'un bout à l'autre. J'ai pas fait attention, c'est vraiment 1h40, c'est ça le spectacle, vous disiez?
Avec le générique.
Avec le générique qui compte dans ce spectacle. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment, il y a une finesse qui m'a plutôt réjoui. Encore une fois, ne connaissant pas ce garçon, mais peut-être faire entendre d'autres paroles que les nôtres avant de reprendre le micro. Coppelia Ménardi, quelques commentaires sur Vincent de Dienne et ce spectacle?
Oui, sur Twitter, un commentaire de Jonathan ToutTV. Même s'il y a de bonnes vannes par moment, ce spectacle de Vincent de Dienne est un peu longuet, je préfère sa revue de presse. Autre commentaire d'Atot. J'aimais déjà ses chroniques télé, mais son spectacle est encore un cran au-dessus. Différent, mais très travaillé dans les textes et le jeu, ce qui rend le tout très sincère et donc touchant. Enfin, Dylan Piplarchen écrit « Si drôle et poétique, le spectacle S'il se passe quelque chose est un pur bijou d'humanité et de mignonnerie emplie de tendresse. Jamais un artiste n'a communiqué autant de bonheur sur scène que lui. »
Bon, voilà quand même ça, des fans. Non mais mignon, c'est vrai, mais pas seulement.
Un peu trop mignon quand même.
Trop mignon.
La fin, moi je trouve, mais c'est étonnant parce qu'on va en reparler après de Jérôme Commandeur, mais c'est peut-être un truc que je connais pas bien, moi, les one-man show. Mais de finir avec une sorte d'emphase, là, il y a vraiment du... C'est plus que mignon, c'est carrément lyrique, la fin du spectacle de Vincent de Dienne. Il y a un petit détour par la question d'une rupture amoureuse où, pour le coup, ce n'est plus du tout drôle. Et c'est... Pour moi, j'ai pas du tout compris ce que ça venait faire là. Quant à la fin, un peu moralisatrice, voilà, on élargit sur les grandes choses de la vie, ça m'a un petit peu agacée. Et en effet, moi, je le connais via la télévision, pour le coup, via cette revue de presse qu'il fait dans cette émission quotidienne sur Je me souviens plus du nom TMC. De cette chaîne. Voilà, TMC. Et en l'occurrence, il y a quelque chose, et ça lui va très bien, je trouve, à son ton, à sa voix, de très mordant, de même un peu méchant. Mais bon, c'est parce que je suis méchante, en fait. J'aime bien les trucs méchants.
Oui, parce que là, il n'est pas méchant dans ce spectacle.
Non, mais justement, j'aime bien. Je trouve qu'il est bon dans un registre de comique un petit peu plus mordant. Et là, la fin du spectacle, pour moi, vraiment...
Trop bisounours.
Oui, oui.
Philippe Chevillier.
Oui, non, je pense que d'abord, il faut justement remettre dans le timing. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, justement, si, c'est peut-être aussi une montée aux puissances au niveau du. On sent qu'il n'a pas épuisé toute sa veine comique dans ce spectacle, loin de là, puisqu'il arrive justement après à faire des choses peut-être de plus en plus drôles. C'est une première chose. La deuxième, je voulais quand même signaler au départ qu'il n'est pas complètement vierge en théâtre. J'avais l'air de dire, on va voir au théâtre ce qu'il va donner. Il a quand même fait 9 spectacles, dont un que j'ai vu d'ailleurs il y a assez longtemps à Grignan, Le Roi s'amuse de François Rossillac. Je ne me rappelle plus très bien ce qu'il jouait dedans. Mais il devait être très bien. simplement, moi, je l'ai plutôt pris quand même ce spectacle. Au-delà des références, où je trouve que vous êtes un peu sévère parce que c'est quand même pas non plus Bourdieu ni Lacan. Hein, on est quand même dans. Il aime les actrices, il aime. Bon, c'est des choses sur lesquelles un public assez large quand même peut se retrouver. Et en même temps, c'est vraiment quelque chose sur. Il raconte finalement sa carrière. Peut-être c'est un peu ça. Alors derrière la coquetterie, effectivement, le masque du. Est-ce que c'est un one-man show? C'est je me raconte, je monte d'ailleurs parce qu'à un moment il se montre à 14 ans, c'est quand même hallucinant ce documentaire où on le voit. Alors maintenant il dit qu'il est ni joli ni pas joli, mais il est franchement mignon par rapport à ce que c'était à 14 ans avec sa coiffure invraisemblable. On voit donc c'est un spectacle initiatique avec ce côté, encore une fois, ces fausses pudeurs et cette pudeur. C'est là-dessus, je pense, qu'on peut accepter le fait qu'on ne rit pas tout le temps autant ou qu'il puisse y avoir quelques coquetteries, parce qu'au fond c'est le spectacle où il se livre, et le spectacle un peu de démarrage aussi, de lancement quoi, de sa carrière, et ça c'est assez émouvant.
Jean-Christophe Briançon.
Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette archive de lui à 14 ans qui passe pendant le spectacle est quand même, vient confirmer justement le fait qu'on voit le one man show d'un homme de théâtre. Parce que quand même, dès 14 ans, on sent qu'il sait occuper la scène et qu'il a une virtuosité technique de comédien qui est quand même assez remarquable. Et ça se confirme là. Là, on voit vraiment un homme de théâtre arriver sur scène. Sa voix porte, il sait poser son corps et il est là, quoi. Et c'est pas le cas de beaucoup de personnes qui font du one man show. Là, sauf erreur de ma part, sa voix n'est même pas sonorisée, ce qui est quand même assez étonnant, et ce qui est par exemple pas le cas même des one man show qu'on a pu voir cette semaine, par exemple dans la petite salle du théâtre de 10h, où là les comédiens sont même sonorisés dans ces petites salles-là. Là, c'est un comédien, un vrai comédien, et ça se voit dès le départ et dès cette archive de lui à 14 ans. Et pour rebondir aussi sur ce que disait notre auditeur sur Twitter, qui se plaignait du manque de punchline peut-être de ce spectacle, c'est selon moi aussi ce qui est intéressant, c'est que justement, on ne vient pas entendre un abattage de punchline pendant 1h30. On vient entendre une histoire, et l'histoire d'un homme qui est ce qu'elle est, et qui parfois est drôle.
Bon, c'est sur cette conclusion magnifique de Jean-Christophe Briançon qu'on va conclure cette séquence consacrée à « S'il se passe quelque chose », le spectacle de Vincent de Dienne, qui est actuellement en tournée jusqu'au 12 juin. Mais alors, je crois qu'il fait ça le comble à peu près partout. Je peux te dire qu'il va être à Liège, Bruxelles, Lille, Nantes, Limoges, Nancy, Strasbourg, Poitiers, Orléans. Il paraît qu'il reste quelques places à Marseille le 12 juin.
Oui, c'est ce que j'ai vu sur Internet.
Hein, et le 16 mai à Liège aussi. Le 16 mai, c'est non pas si longtemps, c'est dans un mois tout court, tout rond. Donc voilà, si vous voulez vous précipiter, parce que d'abord, il finit quand même de jouer au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est son actualité aussi. Mais il y a donc ce DVD, Blu-ray. Alors oui, tiens, à noter d'ailleurs que, chose très rare, il y a le texte. Du spectacle dans le DVD, je trouvais que c'était une belle idée. Vous n'avez pas ouvert le. Non, vous n'avez pas eu entre les mains.
Moi, je n'ai que le lien.
Ah, bah écoutez, bon, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le DVD et il y a le texte du spectacle. Je trouvais que c'était une assez belle idée, à vrai dire. Enfin, ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions sur le statut du texte dans ce spectacle. Bon, mais si vous ne l'avez pas eu entre les mains, nous ne débattrons pas sur ce sujet. À suivre dans la dispute, Jérôme Commandeur et l'Underground Comedy Club.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au One Man Show avec à présent Jérôme Commandeur, qui est depuis le mois de janvier, je crois, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse pour son nouveau spectacle. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas monté seul sur scène, Jérôme Commandeur. Le spectacle s'appelle Tout en douceur.
J'ai touché le fond de la la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleus marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais appliqué. Maintenant je paie les faire tard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Personne ne te voyait sous mon petit pull marine. M'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond.
Nos auditrices et auditeurs ont raté Pull Marine chanté par Lucille Como. Peut-être que plus tard, nous l'entendrons. Pourquoi entendre Isabelle Adjani alors que j'annonce qu'on parle de Jérôme Commandeur ? Donc déjà, si on a le visuel de l'affiche en tête, si on l'a vu placardé dans les rues de Paris, et peut-être déjà en région, parce que j'imagine qu'une tournée va suivre, on voit Jérôme Commandeur dont les yeux ont été légèrement retouchés, je pense, par un logiciel très bleu et enroulé dans un pull qui a l'air très très doux, tout en douceur, qui évoque une pub pour un adoucissant des années quoi 80, 90, dans lequel Isabelle Adjani s'était illustrée, n'avait pas eu de César pour ce rôle, mais tout de même. Philippe Chevillier va commencer à nous parler de Jérôme Commandeur.
Alors justement, ce démarrage, c'est une entrée fracassante, qui se veut fracassante de Jérôme Commandeur, qui à mon... Alors je vais faire un peu comme Lucie, parce que moi, ça ne m'a pas trop convaincu, j'ai eu un petit peu peur. En fait, je me suis rendu compte tout de suite qu'il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit en scène. Ce garçon, il a vraiment d'emblée une façon de communiquer avec le public qui est très sympathique, très... Alors là, on est dans le... Quand on regarde un peu la carrière de Commandeur, on se dit, bon, des films comme Les Tuches, comme chez Danny Boone, un petit rôle, sur des radios sur Europe 1, beaucoup de contributions. On est vraiment sur un personnage populaire, avec un public plus populaire, donc peut-être que Vincent de Dienne.
Je peux vous interrompre une seconde, Philippe Chevillier, parce que sur le petit dossier de presse... qui est peut-être un programme aussi. Il y a la filmographie sélective de Jérôme Commandeur, donc c'est commence par La Vouivre, puis American Beauty, Harvey Milk, Bienvenue chez les Ch'tis, Les Tuches, Superchondriac, Star Wars 7, L'Oreille de la Force, Retour chez ma mère, Cendrillon, Fast and Furious 8 et prochainement E.T. 2. Voilà,
c'est très amusant.
Des choses.
Je l'ai pas lu, c'est
ben voilà, non, mais voilà. C'est pour ça que je vous le signale quand même. Sa filmographie sélective est remarquable.
Si on veut caractériser le stand-up, là, on est un petit peu, c'est vrai que c'est une belle progression parce qu'on est un peu entre les deux, entre finalement c'est pas du stand-up, mais il y a quand même il alpague quand même un petit peu le public. On n'est pas sur des un petit peu.
C'est pas du stand-up.
C'est pas du stand-up au sens
qu'il y a... On va faire la définition ce
non,
soir.
Non, mais disons que c'est pas. Pour être plus précis, il n'est pas dans un dialogue constant avec le public. Il parle au public, mais disons que c'est une forme de qui est plus classique, de comique plus classique, avec un déroulé, un monologue, mais qui est entrecoupé de petites séquences qui ressemblent à des sketchs.
Mais qui n'en sont pas. Moi, je trouve pas que ce soit une suite de. Pour moi, c'est un stand-up, se tenir debout, donc ça, c'est le cas de tous les artistes, a priori, mais. Pour moi, il me semblait que c'était plutôt à rentrer dans le.
Oui, non, mais ça rentre dans la catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans quelque chose d'œcuménique. C'est-à-dire qu'on est à la fois chez quelqu'un qui va se livrer un petit peu.
Ouais.
Qui va raconter des choses quand même qui sont personnelles. Ensuite, il va parler des tics de notre société contemporaine. Il va un petit peu alpaguer le public à deux ou trois moments, mais sans braquer le projecteur dessus, comme nous verrons dans le Grand Comedy Club. Et donc, on est dans un format, disons, où on a un spectacle qui représente bien, à mon avis, le comique d'aujourd'hui. Et il a cette particularité. Bon, moi, j'ai ri. très souvent. Je trouve qu'il a, alors là pour le coup, il a des bonnes punchlines. Que c'est surtout ce qui on parlait du côté un peu touchant de Vincent de Dienne. Il a un côté aussi touchant dans son genre. Il a un côté très bienveillant. Il s'excuse à chaque fois qu'il dit quelque chose de méchant, ce qui doit énerver Lucille. Mais en même temps, bon, il est quand même, il balance ses piques. Mais il le fait, on sent, avec une espèce d'humanité, hein, qui ressort du spectacle. Son côté rond qu'il assume complètement. Et il y a des séquences qui m'ont fait beaucoup rire. Il y a des choses sur le quand il s'en prend à la télé-réalité, quand il dit qu'on parle trop, qu'il appelle au silence. Et ce qui est amusant, c'est que, alors je disais que ça piochait un petit peu dans tout à la fois, c'est que à la fin du spectacle aussi, comme disait Lucille tout à l'heure, on a une fin qui se veut un petit peu plus grave tout à la fin sur la vie et la mort. Et c'est assez amusant de voir cette volonté finalement du comique de ne pas vouloir rester seulement sur l'image du type qui balance des blagues ou qui a attrapé au vol des choses drôles dans la rue, dans le métro, etc., et qui nous les ressort. Il y a une volonté quand même d'arriver à avoir un propos plutôt sympathique et plutôt donc optimiste sur le monde, alors que pendant le spectacle, il en balance pas mal. Donc finalement, ce spectacle populaire, je trouve qu'il a aussi, il ne franchit jamais le fil rouge de ce qui pourrait être un peu beauf dans l'humour. À certains moments, on a peur que ça dérape. Et ben non, il reste sur ce fil sans tomber, à mon avis. Donc voilà, c'était une bonne surprise de voir ce spectacle pour moi.
Jean-Christophe Briançon, fut-ce une bonne surprise pour vous ?
Moins bonne que pour Philippe, puisque j'aurais peut-être justement aimé qu'il tombe, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée. Je trouve que à trop ménager tous ses effets, alors de temps à autre à vouloir être un petit peu violent ou cynique, et puis inversement ensuite gentil avec un propos rassurant, finalement il n'entre ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories. Et alors je ne sais pas s'il est nécessaire de rentrer dans une catégorie, mais en tout cas ça fait du spectacle quelque chose de parfois un peu tiède. Et j'ai été très déçu, parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa manière d'être, et au début du spectacle il dit à son public qu'il vient le voir comme il viendrait à la messe. Et c'était un petit peu mon cas, effectivement. J'y allais, en tout cas, comme un croyant conquis. J'étais à peu
c'est
près...
C'est jamais très bon, vous savez. Non, c'était, on a plus c'est... de chances d'être déçu.
Bah là, voilà, ça a été mon cas. Alors, après, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a quand même, de toute façon, une mécanique de jeu, d'écriture et de rythme qui fonctionne, et qui fait que dans tous les cas, de toute façon, l'heure et demie, en gros, passée dans la salle sera de toute façon une bonne heure et demie pendant laquelle on rigolera toutes les minutes de manière assez mécanique et sans du tout se forcer. Donc, de ce point de vue-là, si un spectacle humoristique doit être jaugé à l'aune de ce qu'on peut rire pendant le temps qu'il dure, c'est réussi. Après, je trouve que sur le plan de l'écriture, il y a quand même... c'est quand même quelque chose d'assez flemmard, entre autres sur les thématiques qui sont abordées, qui sont non seulement flemmardes, mais en plus un petit peu datées, quoi. Parce que en 2018, faire des blagues ou des caricatures, des bobos, des Parisiens et des reportages un petit peu racoleurs qu'on peut voir sur les chaînes grand public depuis maintenant, je pense, une bonne vingtaine d'années, c'est à mon sens pas...
Oui, mais ça, c'est les 10 premières minutes, ça.
Non, ça émaille
quand même. J'ai eu peur
que
ce soit que ça.
Ça émaille un peu le spectacle.
Noté quand même.
Et bon, je trouve que, alors, pour autant, ça marche. Moi, il me fait des blagues sur les bobos et sur les reportages de TF1. Je rigole, mais c'est quand même pas très ambitieux sur le plan de l'écriture. Et ensuite, ce qui m'a aussi posé question, puisqu'on en parlait en ce qui concerne Vincent de Dienne, c'est l'occupation de l'espace, l'utilisation de la scène. Là, il y a quand même, on est sur un spectacle qui ne propose pas grand-chose, qui pourtant fait appel, ou en tout cas la mise en scène est signée de Xavier Mingon, qui est quelqu'un de très installé dans le milieu, qui a signé la réalisation des Césars, qui a coécrit pour Florence Foresti et plein d'autres humoristes. Donc, à la rigueur, pourquoi faire appel à une telle machine à succès en termes de mise en scène pour finir par ne proposer que un stand-up très classique de quelqu'un qui déambule sur le plateau, voilà, pour nous délivrer son texte. Là, je trouvais que c'était pas très utile et dommage, parce que c'est pas parce qu'on fait du stand-up qu'on ne doit pas utiliser l'espace qui nous est donné. Et là, il est utilisé un petit peu au début par l'entrée en scène, qui est en plus pas ce qu'il y a de plus réussi du spectacle, et à la sortie pour les 10 dernières minutes. Bon, mais sans plus. Donc, j'ai trouvé quand même, voilà, ça pêchait sur l'écriture et la scénographie, la mise en scène. Je trouvais qu'il y avait, malgré la mécanique qui fonctionne, quand même certaines limites.
Lucille Como, Jérôme Commandeur.
Alors, je suis pas d'accord sur l'utilisation qu'il fait de la scène, parce que moi, s'il y a bien une chose qui m'a plu dans ce spectacle, qui par ailleurs ne m'a pas fait beaucoup rire, pour le coup, c'est son corps, en fait. C'est son corps. Bon, c'est extrêmement thématisé au départ, puisque il y a un prologue avec une chute, on va pas révéler exactement, mais bon, il y a une chute sur scène, donc d'emblée, il s'ancre dans un comique burlesque du clown. En plus, il a le physique pour ça. Après, c'est dommage, ça s'étiole un petit peu, cet aspect-là du spectacle. Mais quand même, on regarde... Enfin, moi, j'ai été quand même assez conquise par ce corps-là. Le corps de Jérôme Commandeur, il en parle beaucoup au début, puisqu'il parle de son poids. Et paradoxalement, il est extrêmement léger sur scène. Moi, je trouve
ça,
que
c'est lui, sa comédien. Gestuelle...
Oui,
c'est,
mais j'entends bien. Mais bon, c'est la manière dont il utilise l'espace, pour le coup. Oui. Ah, bah, ça peut D'accord. être une manière de se mettre en scène, d'utiliser son corps. Il utilise extrêmement bien la scène. En effet, il la parcourt de long en large.
Parce qu'on parle de Philippe Cobert à l'instant, enfin tout à l'heure,
non, mais
Philippe
Cobert, voilà, il n'y a rien sur scène. Pour autant, il y a de la
l'espace.
Mise en scène. Il ne sort pas pendant tout le spectacle,
dans le sens
alors que le spectacle est long. Il est là tout le temps, quand même. C'est une performance de ce point de vue-là physique. Et dans ses imitations, dans la manière dont vraiment il utilise son corps, avec parfois des mouvements un peu compulsifs, je trouve vraiment que c'est réussi. Et ça m'a fait rire. Après, ça ne tient pas mon intérêt pendant 1h40. Et là où je vous rejoins, en revanche, c'est en effet sur les thématiques, parce que vous disiez, Philippe Chevillet, l'état du monde contemporain, mais c'est pas vraiment le monde. Enfin, moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est le monde contemporain. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très facile de faire des blagues sur Zone Interdite et sur les émissions de M6, parce que de toute façon, ça nous fait rire quand on les regarde. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est
tout ça a déjà un intérêt au second degré et a déjà un humour au second degré intégré quasiment dans la production. Donc, c'est en effet assez flemmard de ce point de vue-là. Faire des mecs bourrés qui rentrent tard et qui se retrouvent face à leur femme, faire des bikers et imiter Johnny. Voilà, je déroule un petit peu, mais imiter des enfants et comme c'est galère, les enfants, c'est en effet un peu poussif jusqu'au
essais
de
trash. C'est notre monde contemporain, Lucie.
Bah oui. Alors par exemple, non, mais parlons d'une chose dont on n'a pas parlé dans le spectacle de Vincent De Dienne, mais moi qui m'a frappée, parce qu'on va en reparler, je pense, dans le troisième sujet, c'est la question quand même de la norme sexuelle. C'est que tout le spectacle de Jérôme Commandeur est extrêmement hétéronormé. Que toutes les références, parce que c'est un fonds de commerce évidemment, de relations amoureuses, du sexe, etc., sont extrêmement hétéronormées. Les blagues, l'homophobie qui pointe dans les blagues, moi ça me choque pas, mais je veux dire, c'est un humour qui est exploité par ces spectacles-là, et moi ça me donne pas une idée justement de la France contemporaine telle qu'on en parle aujourd'hui, par exemple.
Voilà. C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre la fin de votre phrase, en fait.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une France où tout le monde est en famille avec des enfants et du coup peut réagir à un humour qui est uniquement basé là-dessus.
Non, mais on est
sur une cellule familiale.
Très, très majoritairement quand même.
C'est un schéma qui parle, oui. De toute façon.
Non, mais c'est un schéma qui parle, mais je veux dire, c'est comme si c'était évident. Je veux dire, les références du spectacle de Jérôme Commandeur sont les références d'une France blanche, familiale, etc. Vous pouvez me dire que c'est la majorité. Moi, pour moi, par exemple, du coup, le spectacle, il est pas, il ne parle pas du monde contemporain. Et du coup, je trouve qu'il manque peut-être quelque chose. C'est un spectacle qui aurait fonctionné exactement de la même manière, je vais dire ça comme ça, il y a 20 ans, par exemple. Je pense vraiment exactement de la même manière. Du coup, est-ce que c'est pas un problème? Pas forcément un problème, mais est-ce que c'est pas un peu ronronnant? Est-ce que c'est pas une forme de flemmardise, comme le disait Jean-Christophe Brianchon?
Alors Philippe Chevillet, vous voulez dire un mot avant que j'intervienne?
Non, juste que on est bien d'accord quand même que le spectacle n'est pas ne porte pas un discours homophobe.
Oui, c'est ce que je voulais aussi dire.
Parce que d'abord, et deuxièmement, c'est un peu ce que je disais au début, ce côté de faire à la fois d'être assez moderne dans sa façon, justement, alors comme vous disiez, de bouger, de prendre certains thèmes, mais c'est quand même une base populaire assez classique, hein, c'est un peu ce que je j'ai peut-être mal dit, mais ce que je voulais dire. Mais ce qui n'empêche qu'on peut avoir quand même des bonnes idées, des bons retours. Moi, l'histoire des montagnes, c'est quand même assez drôle, le tour des montagnes.
Oui, parce que c'est un peu étrange, justement, voilà, comme commence cette histoire passages-là. Des Vosges. Oui, voilà.
Mais c'est vrai que, vous l'avez rappelé, hein, ça commence quand même sur ces questions de poids et de surpoids. Et donc, comme il tape beaucoup sur lui d'entrée, ça permet ensuite, me semble-t-il, quand même de taper sur les autres, ce qui est une chose assez classique, mais il n'empêche que ça commence par beaucoup, beaucoup d'autodérision. Il s'en met lui-même plein la figure. Donc après, effectivement, si tout le monde en prend pour son grade. Bon, c'est assez habituel comme façon de faire, mais je trouve qu'en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien. Même si d'ailleurs, j'ai quand même été surpris, vous l'avez évoqué, Philippe, par le nombre de précautions oratoires que Jérôme Commandeur peut prendre avant de... Bon, il y en a une qu'il le fait tout à fait exprès parce qu'il y a une sorte de montée du curseur dans quelque chose qui est vraiment très, très politiquement incorrect. Donc bon, voilà. Mais il le fait quand même très, très régulièrement. Moi, j'attendais la vanne qui allait suivre. Et en fait, non, c'était vraiment de véritables précautions oratoires, à une exception près. Donc moi, ça, j'avoue que ça m'a un petit peu étonné. Et puis, dire aussi, vous l'avez évoqué pour Vincent de Dienne, c'était presque une critique. Mais là, pour Jérôme Commandeur, moi, je trouve qu'il a une façon de passer de dedans à dehors d'une façon extrêmement fluide, en ouvrant des parenthèses pour faire des commentaires sur le spectacle en cours, mais qui sont, pour le coup... Là où chez Vincent de Dienne, c'est un peu appuyé, là c'est extrêmement fluide, rapide, et je trouve qu'il a quand même une aisance assez forte, que les enchaînements sont quand même... Il y a des passages évidemment un petit peu moins vifs, mais qui a une belle énergie que passer, on l'évoquait, de Un dîner presque parfait, bon c'est sûr ça nous fait toujours rire, même en vrai, aux Vosges et à la vie au XIVe siècle. Voilà, je trouve ça assez brillant dans la façon dont ça se balade, mais ça fait aussi évidemment penser à la fonction de l'humoriste. Qu'est-ce que c'est que c'est pointer les travers de notre société avec point de guillemets, et surtout pointer ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous poser problème dans la vie quotidienne pour pouvoir... c'est vraiment la catharsis. Alors, il y a quelque chose de très bienveillant, très accueillant dans ce spectacle-là, mais on ne peut pas lui reprocher de vouloir nous faire passer un moment agréable. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de... On ne peut pas avoir une injonction contradictoire. Il y a certes des humoristes qu'on voit qui nous mettent très mal à l'aise et ça nous provoque des choses à la fois du rire, en même temps une sorte d'effroi existentiel. Ce n'est pas le cas chez Jérôme Commandeur. Voir un spectacle de Jérôme Commandeur une fois par an peut faire de mal à personne. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ?
On est d'accord. Après,
on n'attend pas que ça révolutionne le stand-up.
Sans rechercher un humoriste qui nous ferait mal ou qui nous amènerait là où on n'a pas envie d'aller.
Ils sont rares, ceux-là.
Ils sont rares et tant mieux. Enfin, tant mieux que tout le monde ne soit pas sur ce créneau-là, on va dire. Mais pour autant, je pense qu'il n'aurait pas été inutile. Et d'autant qu'on voit qu'il le fait très bien, justement, de nous amener un petit peu plus vers l'absurde
et
vers la folie burlesque qui, à certains instants, pointe dans son spectacle.
Quelques commentaires, Copéa Ménardi, sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Twitter, toujours un commentaire de Carole Aguet-Julien. Excellente soirée avec le génialissime Jérôme Commandeur et son spectacle Tout en douceur. De l'humour, de la douceur, de la bienveillance et beaucoup d'éclats de rire. Autre commentaire de Julia C. qui écrit « Un spectacle qui fait mouche grâce au capital sympathie de Jérôme Commandeur. Quelques longueurs, des banalités et expérimentations qui le font vite oublier, mais on lui pardonne comme on pardonne à un bon copain. »
Un petit côté de ça. Juste pour dire un mot quand même sur le fait que l'espace scénique soit occupé par lui-même. Moi, je trouve très beau, mais je ne vais évidemment pas divulgâcher, de finir par un élément, un accessoire assez fabuleux pour le voir seulement une minute. Moi, j'aime il y a une sorte de classe comme ça, de faire une image tout d'un coup à laquelle on ne s'attend pas du tout au bout d'une heure quarante de spectacle. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Philippe Chevillier, vous terminez très rapidement.
Juste ce que je trouve aussi sympathique et qui pourrait être insupportable chez d'autres, c'est qu'il arrive même à rire par moments de ses propres plaisanteries et je trouve que ça fait partie de ses limites, mais c'est vrai qu'il y a une sympathie naturelle qui dégage de lui. Encore une fois, dans un spectacle qui ne révolutionne pas, à mon avis, l'art comique, mais qui a au moins l'avantage d'être dans ce côté œcuménique et populaire, d'être vraiment de bonne tenue et on passe un bon moment.
Voilà, c'est Tout en douceur. Le spectacle de Jérôme Commandeur se donne encore jusqu'au 29 avril. Plus beaucoup de dates, mais au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, nul doute qu'une tournée suivra.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute, humour, avec l'Underground Comedy Club, scène ouverte organisée par Sun Dembélé et Sam Blackster tous les samedis soirs jusqu'au 30 juin au théâtre de 10h. Programme étant changeant, je n'ai pas vu les mêmes humoristes que vous trois, puisque je crois que vous êtes allés tous les trois samedi dernier. Moi, j'avais été le samedi précédent, mais c'est le principe, hein, par ailleurs, de toute façon. Et puis ça nous donne un aperçu peut-être plus vaste encore de nouveaux talents.
Bonsoir, l'Underground, est-ce que ça va ? Ouais ! Je vais vous donner de là un trio, un maximum de bruit.
C'est d'offrir un lieu où sans pression.
Voilà, où les humoristes sont à l'aise.
Un truc familial où les humoristes peuvent venir tester des blagues et confirmer des sketchs déjà écrits. Voilà.
Voilà comment ça marche pour moi avant qu'on commence. Moi, c'est du donnant-donnant. Okay. Je vous lâche dans la salle, puis je me lâche en scène. Ce soir, on a un peu une famille, ça vous va ?
Ouais.
J'ai eu trois, ouais, là. Là, les autres m'ont regardé, genre, non. Pas noir dans ma famille.
L'Underground, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un public ouvert. On n'a pas peur de venir tester, parce que le problème à Paris, c'est qu'il y a toutes les salles qui s'attendent à ce que tu cartonnes, et souvent avec des nouveaux trucs. Donc pour cartonner avec des nouveaux trucs, il faut tester des nouveaux trucs. Et ici, on est vraiment bien en confiance, et il y a une bonne ambiance entre les artistes aussi, où ça nous encourage à venir essayer nos sketchs. Donc c'est un peu des fois la première étape, donc c'est un peu inégal, mais c'est tellement vital.
C'est le petit frère, il vient depuis longtemps avec nous, et fait, j'ai vraiment donné lui beaucoup, beaucoup d'amour. J'ouvris pour...
C'est une des meilleures scènes ouvertes de Paris, je trouve. Le public est super génial et tout, j'adore ça. Les gens qui nous accueillent sont des amours, ce sont tous des chéris.
Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Et là, on va faire une photo tout ensemble, c'est la tradition.
Et l'Underground, c'est la meilleure scène ouverte de Paris. Merci, bisous, love.
Voilà, un extrait remonté par Thomas Beau du teaser de l'Underground Comedy Club qui donne un tout petit peu quand même la couleur de ce qu'on a pu vivre. Enfin, je sais pas, on n'a pas passé la même soirée forcément. Jean-Christophe Briançon.
Oui, effectivement, ça donne assez bien le ton. Je pense qu'il faut faire la distinction entre le projet qui est celui de Sam Blackster et Sun Dembélé. Alors, je ne sais pas s'ils sont à l'origine du projet, mais en tout cas, c'est eux qui le mènent là, oui. Sur scène. Il faut faire la distinction entre ça et puis ce qu'on voit ensuite sur scène. Parce que je trouve, évidemment, le projet est très intéressant c'est chouette quoi d'avoir une soirée où on peut effectivement voir d'affilée. Là, je crois qu'il y avait 9 humoristes différents.
Ah ouais.
En comptant à la fin Yacine Bellatar, qui est le propriétaire du théâtre, qui est venu faire également un petit passage. Donc c'est une belle initiative et qui est en plus bien menée par Sun Dembélé et Sam Blackster. Alors après, bien mené, ils ont aussi chacun de leur côté leur espace qu'on trouvera plus ou moins bien utilisé ou non. Mais bon, en tout cas, c'est quand même bien emballé, bien fait et c'est louable comme initiative. Ensuite, il y a ce qu'il y a sur scène, les humoristes qui passent. Et là, comme le disait un des spectateurs dans le teaser, c'est effectivement inégal, mais c'est aussi ce qui fait évidemment tout l'intérêt du projet. Donc c'est pas forcément intéressant de s'apesantir sur ceux qui seront venus tenter quelque chose et qui auront raté, parce que c'est par essence même le principe de cette soirée, c'est de venir oser rater des choses. Donc voilà, certains ratent.
Certains ratent mieux que d'autres.
Voilà, certains ratent mieux que d'autres. et c'est pas grave. Après, ça permet aussi à certains qui débutent de montrer qu'ils savent faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'ai trouvé que c'était d'ailleurs assez flagrant à quel point ceux qui semblent plus installés et qui a priori ont déjà une carrière, pas une carrière énorme, mais quand même une carrière qui a priori leur permet d'en faire leur métier. Eh bien, entre ceux-là et ceux qui débutent, il y a une grande différence, non seulement évidemment d'aisance, mais et c'est une aisance qui ne leur apporte pas forcément grand-chose finalement à ceux qui ont une carrière, puisque on voit bien que c'est quelques-uns, ils étaient trois le soir où on y était, finalement ont déjà adopté tous les problèmes dont on a pu parler depuis le début de la soirée, en termes d'écriture, en termes d'occupation de l'espace, tout ça. Alors que ceux qui sont plus, alors si ce n'est plus jeunes, en tout cas plus verts dans le métier, tentent des choses, tentent des univers réellement, ne sont pas seulement là pour nous parler de ce qu'ils ont vu dans le métro. Certains d'entre eux tentent réellement de créer des univers. Et voilà, et y arrivent parfois.
Mais il faut dire aussi quand même que c'est le principe de la scène ouverte, c'est que chacun a son chrono. Hein. Il s'agit de faire vraiment une séquence minutée.
C'est très court, ça doit durer 3 minutes, oh, ça comme ça, 5 peut-être.
Ça dépend du nombre d'invités dans la soirée. Moi, je crois qu'ils étaient 6, voire 7 le soir où j'y étais. Donc c'était 7-8 minutes, mettons peut-être. Mais en tout cas, ils montent avec leur smartphone qui fait marcher le chronomètre. Et donc, est-ce qu'on essaye quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on en a un bout de spectacle? Est-ce que c'est donner envie de la suite? Parce que certains, parfois, ont une date à venir, donc ils l'annoncent en fin de session. Et c'est ça aussi l'esprit du club. Lucile Comeau.
Oui, et on voit du coup qu'il y en a qui improvisent réellement, et c'est souvent ceux qui ont le plus d'aisance, et c'est souvent moins intéressant que ceux qui sont plus fragiles. Et on était le même soir avec Jean-Christophe. Je vais parler d'un, par exemple, pour rentrer un peu quand même dedans, qui s'appelle Larry Benzaken.
Ah oui, bon,
après, j'ai vérifié, il fait quand même des trucs, parce que j'ai vu des vidéos sur Internet. Et alors là, donc, il faut se figurer un type. Alors, peut-être il faut dire aussi que moi, j'avais en tête le Jamel Comedy Club, qui est ce club qu'on connaît un peu en France, qui a été fondé par Jamel Debbouze sur le modèle un peu américain hein, du stand-up, et où la plupart des gens sont des afro-américains des noirs et des personnes non blancs. Là en l'occurrence, il y avait beaucoup de blancs quand même, beaucoup de blancs sur scène, et donc
oui,
carrément. Oui, moi ça m'a frappé.
Ah oui, parce que moi c'était de la société contemporaine, vous voyez, parce que moi c'est très mélangé le
non soir alors société. Là c'était quand même très blanc. Et donc quand Larry Benzaken est arrivé, donc il est physiquement, donc c'est un noir, il était habillé en costume avec un chapeau, la barbe, vraiment comme un pasteur qui prêche dans les années 60 aux États-Unis. Il y a quelque chose de ça, et même dans sa posture. Et pour le coup, lui, il a presque récité un texte extrêmement construit sur la démocratie, en gros, que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait que, pour que les votes soient égaux, entre lui, par exemple, qui réfléchit et qui s'instruit, et un fameux Gérard qui vit, je ne sais plus dans quelle région, j'imagine, du Nord, parce que le Nord prend quand même très cher pendant toute la soirée, et qui ne réfléchit pas. Et donc, du coup, lui, son vote vaut 5 points, et Gérard, ça vaut qu'un point. Bon, tout un discours politique quand même assez construit, mais dit avec une grande timidité,
ou un personnage.
Une timidité feinte. C'est alors, on s'est posé vraiment la question.
Moi, il a fait 3 ou 4 entrées en scène avant de venir.
Ah bah là aussi,
venir,
c'était un petit peu compliqué de monter sur scène.
Il est venu avec un chien, d'abord.
Voilà. Ah oui, non, on n'a pas eu le chien. Bon, en tout cas, c'est ça, pour le coup, c'est quand même un moment, quand on sort, moi j'en ai oublié la moitié. Lui, je me souviens de sa tête, je me souviens de sa prestation. Bon, alors, pour parler d'autres aussi, ce qui est, pour le coup, genre, je reviens à le même problème, entre guillemets, que le spectacle de Jérôme Commander, c'est que les blagues, on se rend compte que le fond de commerce est quand même extrêmement réduit, y compris chez des gens qui ont moins de 30 ans, voire une vingtaine d'années. Donc, on a eu, 50 fois, le provincial qui arrive à Paris, les blagues sur les hipsters, sur les Parisiens qui mangent sans gluten, etc. Mais vraiment, ça, c'était quasiment dans tous les sketchs qu'on a entendus. Parfois réussi, mais quand même, il y a quand même ce fond de commerce qui est vraiment extrêmement identifié. L'humour communautaire est toujours extrêmement présent, avec, pour le coup, c'est tellement, je pense maintenant, des clichés, que toujours avec ses précautions oratoires, l'air de pas y toucher, mais bon, quand même, on fait des blagues là-dessus. Donc, on se rend compte que même sur les scènes où ce sont des jeunes, où en effet, ils ont une possibilité de tester des choses non connues, et ben, ce qui ressort, c'est quand même des blagues un peu toujours sur la même chose.
Philippe Chevillier, votre sentiment sur l'Underground Comedy Club?
C'est une expérience. Moi, j'avais connu celle il y a longtemps, du Jamel Comedy Club. L'Underground Comedy Club, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que on est un peu effrayé au départ, parce qu'on se dit, ça y est, les lumières se rallument, c'est sûr, ça va être moi. Non, finalement, on y a échappé, curieusement, qui est obligé de décliner.
Tout le monde n'y échappe pas, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Ils prennent cher, la plupart des gens dans le public.
Non, mais c'est pas bien méchant. Alors, il y a ce côté laboratoire qui est vraiment intéressant, parce que, comme vous disiez, ça permet de mesurer ce qui fait que quelqu'un est arrivé à un niveau d'écriture et à un niveau d'aisance aussi qui fait que tout passe. Et que c'est notamment Franjo qui est très étonnant quand il est arrivé immédiatement. Moi, je le connaissais pas. Je me rappelle même plus ses blagues, mais en 3 minutes, il a fait rire constamment. Et parce que tout d'un coup, il y avait une rencontre entre le texte, sa façon d'être, étant blanc, il exploitait le côté, il disait même, je suis un peu raciste, enfin, je sais plus ce qu'il racontait à un moment donné, mais c'était dans cette veine-là. Et d'un autre côté, on a effectivement des gens qui sont un peu plantés, mais qui essayaient des choses intéressantes. Par exemple, il y a cette jeune femme, je crois que c'est Alexandra Pizzagalli.
Alexandra Pizzagalli.
Pizzagalli qui a essayé quelque chose en se moquant des personnages de Disney. Alors, on n'a pas beaucoup ri, mais c'était assez passionnant ce qu'elle tentait de faire. Et je me disais peut-être que retravailler ce sketch, il va être bon. Et puis, ça permet de voir aussi comment on peut justement le politiquement correct, comment on peut le démolir, comment on peut rire de tout. Comment par exemple Yacine Bellatar, sur un truc un peu improvisé, arrive à être totalement drôle sans qu'on se pose même la question parce qu'il sait faire ça en tant qu'humoriste. Après, il y a eu des polémiques sur ce qu'il a pu raconter dans ses tweets, tout ça. Mais sur scène, en tout cas, il fait rire. Il peut se permettre tout parce qu'il a cette dimension d'humoriste, de stand-upper qui est vraiment... réussi.
On est très disert hein, sur notre émission One Man, donc il va falloir qu'on recommence. Moi, je veux dire que d'abord, j'étais avec mes filles qui sont adolescentes et qu'on a tous passé une très bonne soirée, qu'il y a quand même une ambiance dans la salle qui est assez peu commune, qui est propre à ce type de lieu, que les presque deux heures de spectacle sont passées très vite. Moi, elle n'était pas inscrite au programme, mais c'est Marie Desrolles, donc comme ça je cite son nom, qui m'a le plus impressionné pour un thème ô combien rebattu, qui est celui des frotteurs du métro. Mais elle avait réussi à en faire quelque chose vraiment d'assez impeccable et irrésistible, et en même temps, voilà, très, très concret. Et puis, quand même, je tire aussi mon chapeau à Soum Dembélé et Sam Blackster qui animent cette soirée et qui aussi glissent quelques bouts de leur propre écriture, et je pense qu'ils ont aussi, ils sont pas pour rien dans le succès de cet Underground Comedy Club, donc qui est tous les samedis, là c'est jusqu'au 30 juin au théâtre de 10h, mais c'est à 21h30, c'est la dernière blague de la soirée. Et on conclut avec le jeu de la dispute, et nous sommes fort en retard, Camille André. Si on passait tout de suite à la question du soir, comme ça on reste dans le sujet, puisqu'on va faire gagner des places pour Adieu Ferdinand de Philippe Cobert. C'est vendredi 20 avril à 20h30 au Liberté, scène nationale de Toulon. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, sur scène, les personnages de Cobert sont identifiables par un détail de pantomime qui dit le tout. Grâce à quel geste le public reconnaît-il le personnage de sa femme, Clémence?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, c'est pointu comme question, j'aime bien. C'est envoyé à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, 19h, qui sera consacrée à la musique. On sera en compagnie de Mathilde Serrel, Hugo Cassavetti et Philippe Azzouri. Sur nos platines, Sainte Victoire de Clara Luciani, Bible of Love de Snoop Dogg. Et puis nous parlerons aussi de l'exposition Al Musica, voix et musique du monde arabe. C'est jusqu'au 19 août à la Philharmonie de Paris.